C'est la deuxième heure de ce 1215e Sweet Home Chicago. Et en deuxième heure, c'est la première partie de l'interview du batteur-tourneur toulousain Pascal Delmas qui évoque ses débuts, ses expériences du groupe des années 80, 90, 2000. Rosebud Blue Sauce, Mr. Chang Blues Explosion, également le Chicago Blues côté West Side, mais aussi les innombrables artistes américains qui ont forgé son expérience. 5 ans avec Otis Grant par exemple, et puis d'autres belles rencontres comme Robert Ward, Big Lucky Carter, Room Full of Blues featuring John Rossi, et puis des influences B.B. King avec le batteur Sonny Freeman, Fred Billow, Willie Big Eye Smith, puis encore d'autres artistes avec qui il a pu jouer, Joe Louis Walker, Jeff Zima, Lynn Woodslim. Des anecdotes et une magnifique interview détaillée, pleine de passion, cultivée et documentée. Nous terminerons par une belle sélection discographique qui nous fera réécouter avec délectation de beaux artistes que Pascal Delmas a accompagnés, comme Jody Williams, Ike Turner, Johnny Sansone et Mike Wheeler. La seconde partie de l'interview de Pascal Delmas sera diffusée le 6 janvier 2024. Pascal Delmas, dont la dernière interview remonte au 15 janvier 2022, ça fait presque 2 ans, avec Mr. Chang Blues Explosion à l'occasion de la sortie de Time to Move. Il y avait également au micro, bien sûr, Mr. Chang, Antoine Escalier et Sylvain Tégériseau.
I believe I may be going to hell. Well, I ain't superstitious. I believe I may be going to hell. Cause Lord knows I struck him down and I don't. Well, I didn't start the fire, I just lit the spark.
Je suis avec Pascal Delmas au téléphone. Bonjour Pascal.
Salut Marc.
Tu vas bien ?
Ça va très très bien, oui.
Bon, la dernière fois que c'était parlé, c'était pour évoquer l'actualité de Mr Chang. Il s'est passé encore tout plein de choses, notamment du côté de Cognac, mais pas que. Et là, aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, c'est de faire avec toi un petit portrait, de brosser un petit peu le portrait de Pascal Delmas, batteur, musicien, et puis ensuite on verra toutes tes autres activités. Est-ce que, si je dis que Pascal Delmas est un batteur-tourneur, est-ce que c'est tout à fait complet ? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ?
Alors oui, c'est complet. Je me demande si je suis un batteur-tourneur ou un tourneur-batteur, plus en plus. C'est toujours le dilemme, hein, d'arriver à trouver l'équilibre entre les deux, mais voilà, ouais. Je suis un peu aussi web designer, community manager, tu sais, c'est le business du blues, je fais un peu tout parce que de toute façon, on n'a pas le choix, quoi.
Oui, j'ai envie de dire, c'est souvent comme ça, si on veut que ce soit bien fait, ou en tout cas, si on veut savoir à qui s'adresser pour engueuler quelqu'un qui a mal fait son taf, il faut faire tout soi-même, non, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Pascal, je voulais voir avec toi si tu pouvais nous évoquer tes débuts. Je ne sais pas si c'était en culotte courte, en tout cas, peut-être ta mise au blues, parce que le blues, c'est pratiquement toute ta vie, non ?
Oui, j'ai 53 ans aujourd'hui, ça va faire...
Bon anniversaire, Pascal !
Non. Ça fait plus de 30 ans que je fais ça, ouais. Après mes débuts, alors je vais te la faire courte, mon père était batteur amateur, mais... C'était une époque où il jouait dans les bals musettes, ce que j'appelais moi à l'époque de la variété des modés.
Ouais.
Et puis donc j'ai toujours eu cet instrument à la maison. Je me rappelle, il avait une vieille batterie avec des pots en chevrette. Donc voilà, j'ai toujours vu mon père taper avec des fourchettes et des couteaux sur les assiettes. Ma mère l'a engueulé parce que ça faisait trop de bruit. Donc je me suis dit, tiens, là il y a un truc sympa à faire.
D'accord.
Et voilà, donc j'ai commencé comme ça, petit à petit j'ai monté des groupes, mais c'était plus à l'époque des groupes de punk. En fait, j'étais dans un petit village où si t'écoutais pas les Ramones et au TH, tu jouais tout seul, donc
d'accord.
C'était... la batterie tout seul, c'est moyen, donc voilà.
C'était dans le sud-ouest, ça, Pascal, c'était dans quel coin exactement ? Du côté de Toulouse, hein ?
Voilà, c'est entre Toulouse et Albi,
ouais.
C'est un Sud-Pisse, la pointe, j'ai grandi.
Et voilà. Donc le punk, alors on est quoi, au début des années 80, fin des années 80 ?
Ouais, plutôt 86. Voilà. À ce moment-là, je rencontre des gens qui croient faire du blues, un groupe qui s'appelle Uchikuchi Band avec un copain architecte et qui me dit viens, on va monter un groupe. Enfin, on va en tout cas t'intégrer au groupe qui existait déjà. Bon, ce qu'on faisait, c'était censé être du blues, mais ça ressemblait un peu à du blues rock puisqu'on jouait tout à fond et qu'on on faisait une reprise de B.B. King. Les gens ils disaient, ah, c'est sympa.
Ah oui, c'est sympa, faut que j'achète des albums de B.B. King et après, hop.
Ouais, voilà, et petit à petit, j'ai rencontré un gars là qui s'appelle Jean-Paul Lopez qui m'a ouvert... un peu sur d'autres choses, qui a été assez intelligent parce qu'il m'a fait découvrir d'abord des groupes, des albums de Ronnie Earl,
oui.
Qui sont plus abordables pour quelqu'un qui connaît pas bien le blues. Et du coup, voilà, j'ai commencé à creuser là-dedans et à jouer dans plein de groupes de blues. Et puis ensuite, il y a eu l'épisode Otis Grant, puisque ce gars-là, Jean-Paul Lopez, était tourneur dans une boîte qui s'appelait Resus Blues à l'époque.
D'accord.
Et donc, il était road manager, pour être plus précis. Une boîte qui avait été montée par Jean-Luc Suarez, qui faisait tourner donc Otis Grant, Johnny Hart, Man, Joyce Walker, enfin dans les années 90,
ouais.
Ils étaient un peu sur tous les fronts. Et donc Jean-Paul, qui était road manager, m'appelle un jour et me dit, tiens là, en ce moment, il y a des dates en Europe avec Otis Grant et ça va pas fort avec son batteur, donc si tu pouvais te retrouver à Saint-Jacques-de-Compostelle fin juillet, que je puisse te le présenter, il y a des chances qu'il te fasse monter sur scène. Puis voilà quoi.
Donc t'es arrivé la veille à Saint-Jacques, tu as déposé un cierge et ensuite...
Voilà, c'est ça. J'ai rencontré Otis là-bas, qui m'a fait jammer, et puis une semaine après, il m'a appelé pour partir habiter en Angleterre et intégrer la formation laquelle je suis resté pendant 5 ans.
Eh oui, 5 ans, sacrée expérience avec Otis Grant, un garçon qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, malheureusement. On se souvient de lui, pour ma part, une découverte vers la fin des années 80, avec un blues d'une rare intensité. Un guitariste que je comparais souvent à Otis Rush, je ne sais pas si le prénom le voulait, en tout cas, au niveau du jeu de guitare, parfois, il y avait une telle implication que... c'était vraiment la comparaison que je faisais à l'époque. Je ne sais pas si c'était ton cas aussi.
Oui, c'est quelqu'un qui était très, très influencé aussi par Buddy Guy, par tout le côté West Side, Magic,
ouais.
Sam. Donc c'est vrai qu'il y a cette intensité-là dont tu parles. Ouais.
Et ensuite, donc, qu'est-ce que tu retires déjà de cette expérience avec Otis Grand ? 5 ans à tourner avec lui, c'est pas rien, c'est une tranche de vie, Pascal. Qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce que tu as appris à cette époque-là ?
J'ai appris ce que c'était d'être sur la route, voilà, de s'adapter dans un pays qui n'est pas le nôtre. Puis, ce qui était super intéressant, c'est qu'on avait eu quand même la chance d'accompagner des gens comme Robert Ward.
Ah oui.
Et donc, pas chaque fois, mais ça arrivait fréquemment que quand un artiste passait à Londres, on nous appelle pour l'accompagner, quoi. Big Lucky Carter, Robert Ward. Et on a fait quelques trucs avec Julius Walker, qui était un peu, quand il venait tout seul, qui n'était pas avec son groupe. Donc, ce que ça m'a appris, c'est d'abord la rigueur, parce qu'Otis, il était très pointu par rapport à ce qu'il avait envie d'entendre d'un batteur, quoi.
Oui, et d'ailleurs, comment pourrait-on faire autrement à partir du moment où on joue très souvent en big band? Enfin, moi, je me souviens de quelques concerts de lui, il y avait toujours des cuivres, enfin, il y avait toujours au moins de 6 à 8 ou 9 musiciens. C'était ton cas à l'époque aussi?
Il y avait 2 cuivres, oui. On était 7 sur scène, puisque Otis ne chantait pas.
Mais oui,
il y avait toujours un chanteur, donc j'ai vu passer plusieurs chanteurs. Et il y avait 2 cuivres, ouais. Et puis c'était vraiment l'école Room Full of Blues, voilà. On écoutait beaucoup. Il m'a forcé à écouter B.B. King, Sonny Freeman, voilà. Et puis voilà, quoi, c'est une bonne école, on va dire.
Est-ce que tu écoutais principalement, Pascal, des batteurs? Est-ce qu'en écoutant de la musique, tu te concentrais, tu arrivais à te concentrer, à te focaliser sur le jeu de batterie? Et si oui, quels sont les batteurs qui t'ont véritablement influencé?
Alors, À cette époque-là, comme je te disais, là, c'était vraiment... j'écoutais beaucoup les lives de B.B. King avec Sonny Freeman ou les albums de Roof Love Blues avec John Rossi à la batterie, avec ce côté drive très solide. J'ai beaucoup écouté aussi les albums d'Anson Thunderbirds avec Westar, parce qu'il y avait, c'était toujours très, très créatif. Et puis après, évidemment, les grands classiques du Chicago Blues comme Fred Bilot ou Willie Big Eye Smith ou plein d'autres, quoi. Mais après, ce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens comme Neil Gouven qui jouait avec Ronnie Earl, et j'ai beaucoup écouté parce que c'était aussi plus facile d'écouter ce genre de truc où on entend bien la batterie que les vieux enregistrements où il faut vraiment aller chercher. Je me rappelle mettre ma main sur une enceinte pour pouvoir sentir la grosse caisse, puisque la plupart du temps dans ces vieux enregistrements on n'entend pas vraiment la grosse caisse, on la ressent quoi, plutôt que autre chose quoi. Donc voilà, après il y a plein d'autres, il y a Per Hanson qui joue aussi avec Ronnie, que j'ai beaucoup écouté, puisque ces albums, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ceux qui m'ont amené à aller creuser un peu plus loin, quoi.
Alors Ronnie Earl et Otis Grant qui partagent le fait d'être guitariste simple, pas chanteur. Donc ces artistes-là que tu as pu côtoyer, tu l'as rencontré Ronnie Earl ou ça t'est simplement une référence sur album ou en concert?
Ouais,
comme ça
c'était juste, sur album. Mm-hmm. Et puis,
parce que lui, il fait partie des gens qui sont toujours là, tout comme Julius Walker, contrairement à Big Lucky Carter que tu citais, Robert Ward aussi qui était un artiste de référence. Ces artistes-là, ça t'avait déjà donné envie de les faire venir un petit peu plus souvent par chez nous? Est-ce que déjà ça te titillait de devenir ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire tourneur, road manager? Quand est-ce qu'est née cette idée en fait de faire venir les Américains ici en Europe?
Alors quand je suis rentré d'Angleterre, donc j'ai commencé à jouer avec Jeff Zima, à l'époque ça s'appelait encore les Glory Hogs, puisque Pablo était toujours avec nous. Puis petit à petit, j'ai rencontré Fred Jugla qui faisait déjà ça, donc c'est-à-dire qu'il faisait venir des artistes et qui montait les tournées. Donc j'ai commencé à travailler avec Fred Jugla et puis j'étais... Je me suis impliqué de plus en plus dans le booking, quoi. Et voilà, quoi. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire venir des artistes. En parallèle, j'ai travaillé aussi avec des gens comme Eddie C. Campbell, que faisait venir Jean-Pierre Duarte.
Oui.
Voilà.
Et alors
Bill Geiger, tout ça, Jody Williams.
Ah,
c'était
Jody
vraiment...
Williams,
ouais. Donc, Jody Williams, on avait fait Léon Blue. Jean-Pierre faisait pas mal de trucs sur Paris.
Jody, à qui a rendu hommage Mr. Chang il n'y a pas très longtemps dans le dernier album, notamment.
Ouais, exactement. Ouais.
D.C. Campbell, ouais.
Mmh. Ouais, exactement, ouais, il parle un peu de ces rencontres-là.
Mr. Eddie C. Campbell and Mr. Jody Williams, they are helping us today, helping us keep the blues alive. They got a sound so pure and clean, the best guitars I've ever seen. They've been playing that funky music for such a long, long time. Yeah, been grooving and jiving all around the town. I fell in love with the West Side sound. I can say I'm Chicago bound. We'll be right back. give the blues a life. Eddie C and Jody helping us keep the blues alive with their sound so pure and clean, the best guitars I've ever seen. There are many other heroes forgotten all day and gone. With this song, my only hope is that you search for them online. And if you wanna make me proud, play some Chicago blues really loud.
D'autres artistes qu'on pourrait citer, des gens avec qui tu as travaillé, tu m'arrêtes dès que tu as quelque chose en tête, si tu penses à soit une anecdote ou quelque chose qui a pu se passer sur une tournée. James Armstrong, Johnny Sanson, Johnny Nicholas, John Del Toro Richardson, tiens, j'ai vu passer ça dans la liste, Sean Carney,
ouais.
Steve Big Man Clayton, Mike Wheeler, il n'y a pas très longtemps encore, Kai Strauss, côté Europe, Kai Strauss, Victor Puertas, Luca Giordano. J'ai noté aussi Ike Turner, tu as joué avec Ike Turner.
Alors c'était ce qui s'est passé. Si tu veux une anecdote, ce qui s'est passé, c'est que Ike Turner on faisait un truc, je ne me rappelle plus, de la salle à Londres où je jouais avec Otis, et ensuite Ike Turner devait être accompagné par le groupe de Joyce Walker qui était là.
D'accord.
Donc moi, j'en ai profité pour assister aux balances, tout ça, et puis Ike Turner n'était pas très très commode. Donc il s'est un peu agacé, ça s'est pas bien passé avec le batteur de Joyce Walker. Donc Otis qui était là me dit, là il y a un souci, Ike ne veut pas faire le gig avec le batteur de Joyce Walker, qui était excellent d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre question. Donc Otis me dit, viens finir la répète, puisque là ça a quand même bardé, et puis si ça se passe bien, voilà. Donc j'ai fait cette répète, et le soir du concert, je sais pas, un quart d'heure avant de monter sur scène, Ike Turner nous annonce qu'en fait il va jouer tout seul au piano.
Ah ouais, voilà. Carrément. malgré votre présence, malgré la balance faite.
Voilà, malgré... Non mais... Il décide, et le pire, c'est qu'il c'était vraiment super. Il s'est mis au piano, il a joué, il a chanté, et c'était super. Mais donc, du coup, j'ai fait une moitié de répète, et c'est tout ce qui s'est passé, quoi.
Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, comme les autres musiciens, peut-être de la frustration, ou te dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi?
Oui, après, c'est aussi ce qu'on apprend, c'est qu'on arrive avec plein d'envie, de l'ardeur, et on a envie de faire des choses. Après, ouais. Ça se passe pas toujours comme on espère que ça va se passer. Voilà, après, on apprend à gérer ça, et puis... C'est la vie, hein. C'est déjà, quand je regarde en arrière, le fait d'avoir pu partager la scène avec des gens comme Robert Ward, je me dis, c'est quand même...
Ah oui.
C'est quand même une chance extraordinaire pour un petit gars du fond du Tarn. Donc voilà, si des fois ça se passe pas bien, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec.
On va revenir tout à l'heure sur le côté tournée, et puis j'ai quelques questions pour toi à propos de Blues Track, bien sûr, mais je voudrais qu'on revienne sur le Pascal Delmas, batteur dans un groupe. Pendant 4-5 ans, tu as été le batteur de Rosebud Blue Sauce aux côtés de Nico Duportal, je crois.
Oui, c'est d'ailleurs, dans les artistes dont tu as parlé, tu n'as pas cité Linwood Slim, mais c'est quelqu'un qui a été important, puisqu'il a justement produit un des albums de Rosebud Blue Sauce qu'on a enregistré chez moi, là, dans mon petit studio.
C'est ça, monsieur Durand, hein, si j'ai bonne mémoire.
Richard Durand,
ouais, okay.
Je regrettais Richard Durand, qui manque fort.
Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, justement, d'avoir enregistré avec Linwood Slim?
Écoute, c'était assez particulier, parce que, comme je te disais, c'était chez moi, donc c'était un peu avec des bouts de ficelle, mais ce qui était super, c'est qu'il avait cette expérience aussi d'enregistrement, et il avait plein de petits trucs pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Ça allait de mettre l'ampli guitare dans les toilettes pour isoler le son de guitare, parce qu'il a trouvé qu'il y avait une acoustique sympa, à mettre des 45 tours scotchés sur les pieds de micro pour pas que les cuivres repissent dans le champ. Enfin, bon, il avait plein de petits trucs comme ça. Et puis c'était marrant parce que il était là avec sa compagne de l'époque, et puis c'est une petite anecdote. À un moment donné, il se met à chanter, on s'était dit que ça serait super qu'il puisse chanter un morceau sur l'album, et donc il se met à chanter un morceau dont les textes parlaient d'une ancienne petite amie blonde, machin, ça. Et donc sa copine, à un moment donné, entend ça, elle rentre dans le studio, elle fait un scandale en lui disant qu'il avait écrit ce morceau pour son ex, alors qu'en fait c'était un vieux morceau de Louis Jordan, tu vois, que lui... Oh, alors, il y a eu des petits sketchs comme ça avec le couple.
Oui, oui, il ne faut pas toujours s'auto-identifier quand on chante quelque chose. Ouais, c'est clair.
Non, ah. C'est vrai que l'expérience avec Slim, c'était quand même c'était super de pouvoir l'accompagner aussi, quoi.
Yes, I'm pleading to you, baby. For you're the only true love I've ever found. Yes, I'm pleading to you, baby. For you're the only true love I've ever found. Yes, I really love you, darling. Baby, please don't put me down. No, don't put me down, baby. Please don't let your love get old. No, don't put me down, baby. Please don't let your love get old. You know you got my brand of loving, and it's a love that never will get cold. It's the graveyard if you leave me. They'll bury me in the cold, cold ground. Yes, it's the graveyard if you leave me. They will bury me in the cold, cold ground. You know I'll die without you, darling. Baby, please don't put me down.
Avec Rosebud Blue Sauce, il y a eu également des choses avec Hergé Michaud, je crois.
Ouais, c'est vrai, ouais.
L'harmoniciste, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire ? Harmoniciste, guitariste, batteur, enfin, il sait tout faire, ce garçon. Little Victor aussi, hein. Est-ce qu'il y a eu des enregistrements avec Little Victor ?
Non, il n'y a pas eu d'enregistrement. En tout cas, pas quand j'étais avec Rosebud. Je pense que Nico Abdel avait travaillé avec Little Victor avant.
Ah bon, d'accord.
C'était Fabrice Bonny à la batterie.
D'accord.
Et nous, moi, j'ai fait des trucs avec Little Victor, mais un petit peu plus tard. Ouais.
Fabrice Bonny qui a maintenant intégré Maudit Gurdy. J'ai vu ça il n'y a
exactement,
pas très
ouais.
longtemps.
Ouais. Ouais, j'ai vu ça, super.
Ils étaient à la Nouvelle-Orléans les jours passés. Cette expérience avec Nico du Portal, ça t'a permis de jouer un petit peu partout en France, bien sûr, également en Europe, je crois.
Oui, on a joué un petit peu partout. On avait été en Italie, on s'était retrouvé à accompagner Duc Robillard au Festival de Rossano. Puis il y avait une vraie démarche artistique et c'était un groupe qui tournait beaucoup. Donc, en tout cas, ça reste un très bon souvenir. C'est vrai que Nico a toujours été en recherche d'un son et d'un projet artistique. En fait, ça n'a pas changé aujourd'hui. Et donc, à l'époque de Rosebud, c'était ça. Au départ, il y avait un harmoniciste, après, il y avait un saxophoniste aussi.
Ouais.
Voilà, il y avait des couleurs et c'était souvent Nico qui impulsait ça, le côté artistique. Et je trouve ça, c'est quelque chose que je retiens encore aujourd'hui. Je trouve, par exemple, avec les Rhythm Dudes, il aurait pu se contenter de ça fonctionner. Il aurait pu faire toutes les écoles de danse rock'n'roll d'Europe. Là, il repart sur un nouveau projet avec
le Wayland Brothers. Oui, oui, ça. C'est quelqu'un qui aime bien se mettre en danger, j'ai l'impression, Nico. C'est ton cas aussi, Pascal, ou tu préfères t'en tenir à des choses que tu connais maintenant ?
Alors, moi, je me sens pas vraiment une âme d'artiste, en fait. Artiste dans le sens où j'aime bien permettre aux autres de s'exprimer, mais je vais jamais monter un projet sous mon nom. où je ne suis pas compositeur, par exemple, comme Denis Agenais, même si sur le dernier album de Mr. Chang, il y a un morceau que j'ai écrit, mais ça reste vraiment anecdotique, quoi. Moi, j'ai plus le temps passe et plus j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai envie de défendre des projets, des gens que j'admire, quoi.
Avec un autre leader que toi, hein, avec quelqu'un, en tout cas, devant la scène, c'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est ça, ou un projet, carrément, un projet, comme je fais en ce moment avec le Roots Combo d'Arnaud Fradin.
Oui.
Parce que c'est des gens, chaque fois que je vais les voir sur scène, voilà, j'ai des frissons et il se passe quelque chose d'assez fort, quoi.
Et donc, eux, tu les fais tourner ou tu remplaces Hugo à la batterie?
Alors, dans le Roots Combo, il n'y a pas Hugo, hein, c'est Richard à la batterie.
Richard Rousset, pardon, oui.
Et non, je n'ai jamais joué avec le Roots Combo et je ne veux surtout pas remplacer Richard parce que l'alchimie entre Igor et Richard... juste incroyable. Et puis Richard, il a un univers qui colle parfaitement au Roots Combo.
Et Thomas à l'harmonica aussi.
Et évidemment, et Thomas et Arnaud, dont je ne vais même pas parler, mais ça m'intéresse vraiment. Là, par exemple, le nouveau projet de Bernard Selam avec Julien à la batterie, c'est aussi pour ça que des fois j'accroche à certains projets, parce qu'il y a des batteurs qui me touchent aussi, quoi. Et là, par exemple, Julien Biget qui est à la batterie sur le projet, pour moi, c'est un super batteur et... Ça m'intéresse de défendre ça avec ce nouveau projet de Bernard, avec les cures, le côté swing, qui me ramène justement à ce dont tu en parlais tout à l'heure, aux années Rumpf Blues. Voilà, quoi. Je trouve ça intéressant, en fait, de défendre ça, des projets dans lesquels je suis pas forcément impliqué en tant que batteur.
Love was meant for two people, for me.
Et on va parler tout à l'heure effectivement de ce volet-là de tes activités, mais je voudrais qu'on ait quand même quelques mots par rapport à Mr Chang, parce que ça fait pas hyper longtemps non plus que tu te produis avec lui, si ?
Alors, ça commence à faire pas mal d'années, j'ai retrouvé des vidéos de 2011, donc ça commence à faire quand même pas mal d'années que je joue avec Sam. Le projet, il a pris forme petit à petit, mais avec la sortie du dernier album Time to Move et puis le prix Cognac Boost Passion, c'est vrai que ça a de suite pris une autre dimension. On a vraiment figé le format à 4 avec Sylvain Tégérizo, puisqu'avant, on avait toujours plusieurs formules. Là, on s'est dit, maintenant, on va vraiment travailler un son de groupe avec Antoine Escalier. Et puis voilà, là, on est en train de préparer notre passage sur la grosse scène du Festival de Cognac en juillet.
2024
En juillet 2024, voilà.
Tu sais déjà avec qui, avant ou après?
Oui, je sais, mais je ne suis
pas le droit de le dire.
Te le dire.
Très bien. Est-ce qu'il y aura, quand même, je peux te demander, puisqu'il est sur l'album, est-ce qu'il y aura Victor Puertas avec toi ce jour-là?
Non. Non. Justement, on a décidé en fait d'enregistrer un live ce soir-là.
D'accord.
Qui sera filmé aussi. Et on veut vraiment mettre en avant cette formule-là. J'avais évoqué l'idée d'avoir des invités, mais vraiment. Sam tient vraiment à développer ce son-là à quatre.
Ouais. Ce qui n'était pas forcément à exclure s'il y avait la possibilité de faire genre un mini deuxième set de 20 minutes avec quelques invités surprises. Enfin, moi, je connais un petit peu Sam, je sais qu'il est capable aussi de ce genre de truc, non ?
Ah oui, bien sûr. Bon, en tout cas, pour ce projet-là et pour ce concert-là, on va essayer de s'en tenir.
Donc là, c'est ton activité musicale première en ce moment et depuis quelques années maintenant, on l'a bien compris. Mr Chang, Blues Explosion, l'album Time to Move, est-ce qu'il va avoir bientôt un successeur ou est-ce qu'il faut attendre ce live à Cognac 2024, ça sera ça, le prochain album ?
Oui, je pense que le prochain album, ça sera ça. Et puis, on a commencé à travailler sur de nouveaux morceaux. Voilà. On va enregistrer ça dans les mois qui arrivent. Mais on va vraiment préparer ce concert qui nous tient à cœur, quoi.
Voilà, c'était cette interview avec Pascal Delmas, illustrée par pas mal de gens, et notamment trois extraits de Time to Move, l'album de Mr. Chung Blues Explosion. Il y avait Ain't Superstitious, il y avait également ADC and Jody, on va en reparler tout à l'heure, et puis Louise. Et puis à travers, il y avait cette fabuleuse interprétation de Just One More Mile du chanteur Curtis Salgado avec le guitariste Otis Grant sur l'album d'Otis Grant qui s'appelait en 1996 chez Sequel Records, Perfume and Grime. On a pu également entendre Rosebud Blue Sauce avec Lynwood Slim au chant dans Don't Put Me Down, cette fameuse anecdote que Pascal nous citait à propos de sa femme un petit peu jalouse, et puis Bernard Selam, The Boys From The Hood avec Midnight Hour, extrait de Feeling So Fine. On vient de terminer avec Louise de Mr. Chung Blues Explosion. Voici maintenant Johnny Williams, extrait de Return of a Legend. On est chez Evidence en 2001, cet album qui avait été vraiment la révélation pour certains, comme quoi bah, c'était bien lui qui avait créé ce fameux All Your Love d'Otis Rush. Voici Johnny Williams avec Come Over to My House.
Else to go, you just come on over to my house, come on in through my back door, I'll give you a shoulder to cry on, and anything else you'll heart desire. Now when you're cold and need a little comfort, girl, I'll be there to light your fire. Says no to anything you want to say or do. You just come on over to my house and I'll be a yes, yes man for you. I'll give you a shoulder to cry on and anything else you'll heart desire. Now when you're cold and need a little comfort, your fire. and affection. When the nights are dark and dim, I'll hold you in my arms and kiss you, and we'll forget all about him. I'll give you a shoulder to cry on, and anything else your little heart desires. Now, when you're cold and need a little comfort, girl, I'll be there to light your fire.
Ça faisait pas mal d'années qu'on n'avait pas écouté Monsieur Jody Williams dans la radio. Return of a Legend chez Evidence Records. On était en 2001. Et je vous rappelle que la fin de cette deuxième heure est consacrée aux artistes que Pascal Delmas a accompagnés. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour celui qui arrive, mais vous avez entendu l'anecdote tout à l'heure avec Ike Turner. Voici Ike Turner, The King of Rhythm. J'en profite pour vous passer cet excellent album qui s'appelait The Resurrection. N'ayons pas peur des mots, live at Jazz Festival de Montreux. On est en 2002. Voici Baby's Got It.
Let's give it up. Baby's got it. One, two, three.
Quasi instrumental, Ike Turner and the Kings of Rhythm, avec beaucoup de piano. Hein. Baby's Got It sur l'album The Resurrection. Live at Montreux Jazz Festival. On est en 2002, c'était chez Isabelle Records. Johnny Sanson l'a tourné avec Pascal Delmas, c'était il n'y a pas si longtemps, mais cet album-là, je l'ai exhumé de chez Bullseye Blues Records The Rounder en 1997. Et à cette époque, ça m'avait fait grand effet, ce disque avec Johnny Sanson, Rick Olivares, Steve Riggs et Jim Starboy, avec également beaucoup de très très beaux invités, dont John Cleary et Sonny Landreth, figurez-vous. L'album, c'était Crash and City Moon. Voici le titre album, écoutez-moi ça.
Is this Christmas in the moon?
Voilà, bienvenue à la Nouvelle-Orléans, ici avec Jumping, Johnny Sansone, Crescent City Moon, c'était le titre de cet album. Et on termine cette émission avec Mike Wheeler, avec qui Pascal Delmas a fait une tournée, c'était l'an dernier, en 2022. Talking to Myself, extrait de Turn Up chez Delmark Records, nous sommes en 2016.
Like talking to myself, talking to you, baby, just like talking to myself. You don't even listen, it's like I'm talking for my help. The words that I say, you don't try to comprehend. Words that I say, you don't try to comprehend. Just go head on, that's the message that you see. I don't know everything, but I know what I know. Don't know everything, but I know what I know. If we can't communicate, I'm gonna have to let you go. Talking to you, baby, just like talking to myself. Talking to you, baby, just like talking to myself. 'Cause you don't even listen, it's like I'm talking for my help.
Talking to Myself, c'est ainsi que se termine avec Mike Wheeler, ce numéro 1215 de Sweet Home Chicago. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bye bye.